Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez des États-Unis toute cette semaine, le dorlotage de l'esprit américain. Ce fut le titre d'un article publié par la revue The Atlantic il y a 5 ans. Et cet article a été tellement consulté, cité, critiqué que ses auteurs en ont développé les idées dans un livre devenu un véritable best-seller aux États-Unis. De quoi s'agit-il, Brice?
Eh bien, d'une espèce d'inversion de tendance qui laisse les observateurs pantois et qui interroge sociologues et psychologues. Depuis les années 60, les étudiants avaient habitué leurs professeurs à réclamer la liberté d'expression, à contester les idées reçues, à transgresser les normes établies de leur milieu d'origine. Quelque chose d'étrange et de nouveau s'est produit à partir de 2013 précisément, relèvent les auteurs de ce livre, The Coddling of the American Mind, qui sont donc Greg Lukianoff et Jonathan Haidt. Les étudiants se sont mis à réclamer non pas la liberté de parole, mais la censure des idées qui ne cadrent pas avec leur identité, l'interdiction des personnalités qui leur causent un déplaisir. Et le plus curieux, c'est qu'ils invoquent à l'appui de leurs exigences des problèmes affectifs. Ils se sentent, disent-ils, menacés, agressés par la simple présence sur leur campus d'orateurs avec lesquels ils sont en désaccord. Leur sécurité émotionnelle serait menacée par un discours de personnalités telles que Condoleezza Rice ou Christine Lagarde, interdite de campus à plusieurs reprises après avoir été invitée à s'exprimer par des enseignants. À l'heure où les États-Unis, comme l'ensemble du monde occidental, cherchent à promouvoir des femmes à des positions de responsabilité à égalité avec les hommes, il aurait été pourtant intéressant d'entendre la première femme noire avoir dirigé le département d'État américain et la première française avoir été nommée ministre des Finances puis diriger le FMI. Comment en est-on arrivé à des exigences ubuesques telles que celles rapportées par Jenny Sook Gerson, une professeure de droit à Harvard, dans le New York Times? Des étudiants refusent d'assister à des cours portant sur la répression des violences sexuelles. Cela risquerait de réveiller chez certaines d'entre elles, disent-elles, le traumatisme de violences subies. Garçons et filles exigent de leurs professeurs un « trigger warning », les Québécois ont traduit par « trauma avertissement », afin d'éviter l'assistance au cours dans les cas où donc la question du viol et sa punition est évoquée. Certains réclament désormais qu'un professeur de droit renonce carrément à employer le verbe « violer » dans l'expression « violer la loi ». Cela devient bien compliqué d'enseigner le droit pénal des violences sexuelles, écrit cette professeure. Comment pourrait-on enseigner la chirurgie à des étudiants avertissant qu'ils ne supportent pas la vue du sang?
Et alors Brice, comment les auteurs de The Coddling of the American Mind expliquent-ils cette forme d'hypersensibilité chez les étudiants?
Pour Haidt et Lukianoff, les auteurs donc, on a affaire à une métamorphose récente de la sensibilité. Je cite « La réponse la plus probable implique un changement de génération, car c'est l'enfance elle-même qui a beaucoup changé durant la dernière génération. » Et il développe. Les enfants du baby-boom, comme ceux de la génération X, ceux qui sont nés donc entre 66 et 76, se souviennent d'avoir fait librement des tours de vélo dans leur enfance autour de leur quartier. Eh bien, à partir des années 80, les parents sont devenus plus suspicieux et plus protecteurs. Fini les tours de vélo sans la surveillance d'un adulte. Je cite à nouveau ce livre. « De toutes sortes de manières, les enfants nés après 1980, les millennials donc, ont reçu un message constant. La vie est dangereuse, mais les adultes vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous protéger du mal, non seulement de celui qui provient des étrangers, mais de celui que vous risquez de vous infliger mutuellement. » Les jeunes adultes d'aujourd'hui ont donc été dorlotés, surprotégés, et du coup, ils sont relativement mal préparés à affronter les défis de leur vie d'adulte. Mais ce qui se produit sur les campus américains depuis 7 ans démontre que l'on a affaire là à une génération complètement différente des précédentes. Ce sont en effet les premiers natives des réseaux sociaux. Facebook, on s'en souvient, a été créé en 2004, ouvert au public en 2006. Et on voit donc arriver à présent dans les collèges, ce qui correspond chez nous au premier cycle d'études supérieures, on les voit arriver la première génération à s'informer essentiellement sur les réseaux sociaux et non plus à travers la télévision ou les journaux comme les générations précédentes. Cette nouvelle génération a grandi en outre dans un environnement culturel extrêmement politisé. Les politologues parlent de polarisation partisane affective. Et Donald Trump a été élu en instrumentalisant des clivages idéologiques qu'il hystérise, créant aux États-Unis un climat, on le sait, peu proche de la guerre civile. La charge affective à charge affective affectant les choix politiques est très élevée. En outre, la self-righteousness, la conviction d'être dans son bon droit, d'incarner une vertu supérieure, d'appartenir au bon combat qui caractérise la nouvelle génération, pousse certains de ses membres à des extrémités. Je signale que Jonathan Haidt, qui est donc l'un des deux auteurs de ce livre, a également consacré à cette question un autre ouvrage, traité donc sous l'angle de la psychologie, le fait de se sentir dans son bon droit. Ça s'appelle « The Righteous Mind » et ça a été publié en 2012.